Bonjour, je viens d'écouter François Ruffin dans l'émission Là-bas si j'y suis, et je trouve que son discours est très pédagogique, puisqu'il a exposé de manière très claire les problèmes de la société française aujourd'hui, et le problème du pouvoir d'achat en particulier, à savoir l'inégalité dans la répartition des richesses. C'est vrai que la gauche, et je le déplore moi-même, on n'entend plus dans le discours de la gauche aujourd'hui ce problème-là, alors que c'est le problème fondamental. Aujourd'hui, on a encore une croissance positive, ça veut dire que globalement, pour l'ensemble des acteurs économiques, il y a création de richesses supplémentaires. Et quand on parle de pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, il ne se pose que pour certaines catégories socio-professionnelles. Donc bravo à Là-bas si j'y suis, et continuez vos émissions. Merci, au revoir.
Salut Daniel, salut chers amis, etc., etc. Alors, un comité d'éthique du MEDEF, ça s'appelle un oxymore. Quand est-ce qu'on va faire on va décerner un prix foutage de gueule représentant du MEDEF, voilà, de la presse éclairée, voilà. Oncle Bernard, mets-toi en route pour ce genre de prix à décerner. Merci.
Une bonne nouvelle en ces temps de grisaille automnale, une très 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 bonne et jouissive nouvelle qu'apprends-je en me rendant ce mercredi chez mon buraliste préféré à Plébin dans le Finistère. Eh bien figurez-vous que ma buraliste était toute fière de m'annoncer qu'elle avait reçu ce matin 9 exemplaires de Ciné Hebdo contre un seul et unique exemplaire de Charlie Hebdo. Voilà, ben, moi ça me fait plaisir. Hein. Alors on se contente de petites bonnes nouvelles, mais pour moi c'est une très 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 bonne nouvelle, et je pense qu'il y en a qui va faire vraiment la grimace, vraiment la gueule en ce moment, parce que je me demande, bon, c'est évidemment pas la proportion nationale, enfin je peux pas oser espérer une telle chose, mais quand même c'est une sacrée putain de tendance quoi. 9 pour 1, 9 ciné pour un Charlie, balèze quoi. Et voilà quoi, c'est bon, c'est fait comme ça. Voilà, ben moi je savoure ma bonne nouvelle, j'espère que ça fera plaisir à tous les auditeurs, tous les AMG. Salut, ciao.
Salut Daniel, il est formidable notre président, il est formidable. Hier à l'ONU, un certain Nicolas Sarkozy disait qu'il fallait punir les coupables de toutes ces malversations financières, les retrouver et plus encadrer par des lois ce genre de pratiques. Mais un certain Sarkozy Nicolas en France va faire voter une loi de dépénalisation du droit des affaires. Comme ça, plus d'abus de biens sociaux ou alors malversations, ça sera tout ça impuni. Voilà, de tout et son contraire, on est vraiment, vraiment, vraiment dirigé par un bouffon. Allez, salut.
C'est alors que je compris toute la puissance morale de se préjuger, se croire vertueux et intègre parce qu'on est esclave. Marius Jacob, ça n'a jamais été autant d'actualité. Bravo pour toutes tes émissions, hein, Daniel. Ça fait chaud au cœur. Allez, à bientôt. C'était Chantal de Paris.
Merci, chers amis, chers auditeurs modestes et géniaux et auditrices modestes et géniales pour les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas si j'y suis. Nous sommes de retour d'Italie sur la route du retour et il faut bien reconnaître qu'il y a un vent mauvais, très mauvais, qui souffle sur ce beau pays que nous aimons tant. La preuve de ce vent mauvais, la couverture d'un magazine très populaire qui s'appelle Panorama, le numéro du 10 juillet dernier. C'est un magazine, un hebdo très proche de Berlusconi, enfin pro-Berlusconi. Et la couverture, c'était en gros « Nati per rubare ».« Nati pour rubare », ça veut dire « né pour voler ». Et qui est né pour voler ? Eh bien, ce sont les étrangers, notamment les Roms. Et on pouvait lire dans ce numéro de Panorama, je cite, « À peine sont-ils nés qu'on les dresse pour voler, détrousser, mendier, et s'ils n'obéissent pas, ce sont des coups et des violences. » C'est un extrait, c'est quand même ce qu'on peut appeler une franche et décomplexée incitation à la haine raciale. C'est cet esprit décomplexé vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des autres, et notamment vis-à-vis des Roms, qui souffle actuellement sur ce pays. Et on a eu la preuve à nouveau hier, on était à Castelvolturno, c'est une petite ville à 30 km de Naples, pas si petite que ça d'ailleurs, et qui est au cœur même de la Camorra. C'est là, c'est juste à côté qu'est née la Camorra, et une ville comme celle-là, Castelvolturno, est complètement placée sous l'empire et sous le contrôle de la Camorra. Il faut rappeler que 25% de l'économie italienne est contrôlée par l'une des mafias italiennes, et aucune, évidemment, aucune économie n'est étanche. Il n'y a pas des casiers comme ça, ce qui fait que on peut dire qu'une grande partie de l'économie italienne est contaminée par l'économie mafieuse. En tout cas, à Castelvolturno, il y a quelques jours, il y a eu un drame terrible. Il y a sept immigrés, sept Africains, qui ont été assassinés. On ne sait pas par qui, mais l'enquête se dirige évidemment vers la Camorra. Sept ont été assassinés alors qu'ils regardaient un match de foot. Ça a déclenché des manifestations d'immigrés africains, je le rappelle, dans la ville, des manifestations qui ont eu des tours parfois un peu violents. Émotion, regain de xénophobie et de racisme dans la presse et dans le discours en Italie. Et Berlusconi, le caïman, le cavaliere, a tout de suite montré ses muscles en envoyant 300 ou 500 militaires dans cette ville, qui ressemble à une ville occupée, enfin, à une présence militaire. Là, on est vraiment dans la guerre économique. Cette fois-ci, on y est bel et bien. Mais que se passe-t-il avec la présence de ces militaires? C'est que les immigrés sans papier, pour la plupart, qui sont là, ben, ne peuvent plus aller travailler dans les plantations de fraises, de légumes du coin, dans les exploitations agricoles, puisqu'il y a quand même contrôle s'il y a présence militaire et policière. Alors, ils ne travaillent plus. Ils ne peuvent plus aller travailler. Donc, difficultés supplémentaires, misère supplémentaire, tensions supplémentaires et risque de violence à nouveau. Voilà un petit épisode de cette façon de traiter l'immigré et l'immigrant avec ou sans papier. On en parlera dans les émissions à venir, évidemment. Toute ressemblance avec des hexagones existants ou ayant existé ne serait pas entièrement fortuite. Nous, on va se préoccuper du vin aujourd'hui. On va revenir sur cette histoire du vin. Ça peut être comparé parfois à la culture et à l'agriculture des fruits et légumes en Italie. En tout cas, là, on va se préoccuper du vin et du territoire et du terroir du vin, parce que la mondialisation entraîne la production de boissons alcoolisées, entre guillemets, comme disent les vignerons du sud qu'on va rencontrer, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus de rapport avec le vin et avec l'âme du vin et avec l'esprit du vin et avec la terre du vin et avec les hommes qui font ce vin. C'est jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Christine Delacreux. Je suis en train d'écouter votre émission aujourd'hui et j'ai pas noté le nom de la personne qui parle, l'économiste ou je sais pas, mais vraiment, moi ça me va bien. C'est tout à fait ce que je pense et ce qu'une majorité de gens de gauche pensent. Mais on en a ras le bol de cette gauche caviar qui aime tout le monde, qui désigne Sarko comme le méchant à abattre, mais qui dit surtout pas le contraire. Et donc, Ségolène Royal, ma mère, c'est le pompon dans la série « J'aime tout le monde ». C'est hallucinant et bon, c'est pas des gens de gauche ça, c'est pas des gens de gauche du tout et c'est pas des gens pour la justice et arrêtons de parler de croissance, on va droit dans le mur avec la croissance, parlons de décroissance et de vivre à peu près normalement, c'est tout. Merci pour vos émissions, à bientôt.
Oui, EDF remercie les pigeons, les abonnés, les clients, faut dire les clients, de leur participation au paiement de leurs factures. Grâce à eux, on a pu économiser 15 milliards d'euros de façon à acheter l'énergie des Anglais. que Madame Thatcher a bradé au privé et qui s'est cassé la gueule, comme pour la SNCF là-bas aussi, comme pour leur prince, comme pour tout, quoi. Merci Madame Thatcher, hein, pour les conneries qu'elle a faites. Mais elle s'en fout, elle perd la mémoire maintenant, là, la maillage des murs. Et donc, merci, merci beaucoup aux abonnés. Continuez à payer vos factures. On a encore besoin d'argent pour acheter les centrales nucléaires en Chine, en Pologne, en Allemagne. On a besoin d'argent. Donc, continuez à payer vos factures, chers clients. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. J'annonce une petite nouvelle très triste. Jacques Durafour, qui est un ergonome qui s'est battu pendant très très longtemps pour les conditions de travail, est décédé hier soir, et ses obsèques auront lieu ce vendredi à Talleyrand dans l'Aude à 16h à l'église de Clairon. Jacques était quelqu'un qui a œuvré de façon extrêmement forte et extrêmement dynamique sur les questions de conditions de travail dans l'ensemble des industries depuis les années 80, qui avait monté un cabinet qui s'appelait Activité sur Grenoble et qui a été un des fondateurs de la discipline de l'ergonomie qui défend les conditions de travail. Voilà, longue vie à tous.
J'annonce aux auditeurs de Guadeloupe l'ouverture du premier repère des AMG des Antilles françaises et de la Caraïbe. Rendez-vous ce vendredi 26 septembre à 8h30 au Café Caraïbe, rue Ferdinand Forest à Jarry, à deux pas des galeries de Welbourg, à côté de la SAD. Contact téléphonique sur le site internet des AMG de là-bas si j'y suis. La Guadeloupe bouge, faites-le savoir.
Catherine est vendeuse. Elle vend de jolies choses à de jolies femmes. Elle doit satisfaire leurs caprices. Elle doit recevoir, raccompagner, monter, descendre, sourire, sourire, sourire. Aussi, le soir chez elle, c'est la détente. Postillon Clairet, le vin tendre et léger des repas légers. Postillon Clairet, le vin de la femme élégante.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben, si j'y suis avec Antoine Charot. Midi rouge, on boit du pays.
Flight number 2, arriving from...
Ah bon, c'est pas pareil.
Donc tu me fais deux bonbonnes.
Deux bonbonnes de vin de pêche, d'accord. Je te ferai deux bonbonnes de vin de pêche.
T'en as deux de bonbonnes au moins
de... Non, mais des bonbonnes, j'en ai, ça manque pas aux bonbonnes.
Alors c'est quoi le vin de pêche alors?
C'est fait avec des feuilles, des dernières pêches qu'on ramasse là, qui mettent en conserve pour les salades de fruits. 350 feuilles pour 5 litres de rosé, du sucre, un bâton de vanille et un quart d'alcool. On laisse macérer pendant 40 jours. Et après, ça donne un apéritif. Combien de temps qu'il est là, je vais lui faire goûter.
On y fera goûter ce soir.
Je lui apporterai une petite bouteille.
Ben, on goûtera
ça, il saura ce que c'est.
On goûtera ce soir.
Faut jamais mourir idiot. Hein.
Ah bah tiens. Bah, tu prépares le casse-croûte, c'est ça?
Non, là, en fait, il me faut du vin à la maison, parce que... Avec tout le monde que j'ai des Américains à la maison.
Oh merde, t'as des Américains à la maison.
Ouais, mais c'est des démocrates.
Bon, passe encore.
Passe encore. Il y en a un, il habite à côté de chez Bush, à côté de la Maison Blanche. Je lui dis, je suis le voisin de Bush. Hein. Mais il n'a pas l'air de les mettre. Non, ils sont sympas, ils nous vendent du vin en Amérique et ils ont pris des congés pour venir travailler avec nous, à la cave, à la vigne, et ils se la donnent bien et c'est vraiment sympa. Quoi. On va à la maison d'un coup de camionnette de gendarmerie, là, vite fait.
Allez.
C'est une camionnette de gendarmerie qui marque l'époque et le temps. Quand j'étais jeune, je montais derrière. Maintenant, je conduis.
Voilà. Mais sans képi, hein, soyons clairs.
Non, sans képi.
Donc ici, on est à la Connette. Hein.
Voilà, la Connette, en occitan, c'est la Caoneto, historiquement, ce qui veut dire la petite grotte. Voilà, c'est tout un programme. C'est l'érotisme torride du Minervois. Ça, c'est mon voisin. Yep. Je veux dire, ici, on est dans la caillasse, sur la caillasse. On travaille sur du caillou, on bouge des cailloux, on plante. Pour planter la vigne, il faut sortir les cailloux ou les pousser. On est dans un univers minéral. Et, Je me demande si ça nous forge pas un peu un caractère particulier, d'ailleurs. Parce que ça va pas de soi, c'est pas facile quand on se la donne, quoi. Faut se la donner pour faire le vin. Après, le vin est bien, hein. C'est formidable. Allez. Évidemment, ça nous détermine probablement une certaine conscience. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'irrigation, on a une terre maigre, on a des cailloux partout. Et c'est ça notre univers physique et donc un peu notre univers mental. C'est à partir de ça qu'on raisonne.
Et sur ta fourgonnette donc, de gendarmerie, tu as quand même mis des autocollants de la Confédération Paysanne.
Ah bah oui, là j'en ai partout. Confédération Paysanne, c'est un engagement depuis l'âge de 15 ans, donc... C'est pas du tout une identité, mais c'est quelque chose de plus intime qui colle à la peau jusqu'au fin fond de la conscience. Faut pas en faire une morale, faut pas en faire. C'est comme une musique référente, c'est comme quelque chose à partir des écrits du premier livre, du livre de Bernard Lambert, à partir du MRJC à l'époque, quand j'étais en Centre-France, en Touraine. Puis après, dans les mouvements plus radicaux, comme. Au moment des lois de Bray, où là, on s'est construit les uns les autres. Et voilà, et maintenant, je suis dans mon petit village, et ma foi, avec les moyens qu'on a à la conf, c'est un peu service minimum en ce moment, mais bon, les jours heureux reviendront.
Une très très vieille histoire que celle du vin, aussi vieille que l'humanité, le vin, l'histoire du vin. Et cette lutte entre le vin, le vrai, le vin de la terre, le sang de la terre, et puis le vin frelaté, fabriqué, triché, c'est une très vieille histoire. Elle est connue ici dans la région où nous sommes, dans ce coin du Minervois, avec Pascal Frissant. Vous avez vu le bonhomme, c'est avec lui qu'on va passer cette heure, avec Antoine Chao. Et une vieille histoire menacée tout le temps et qui jusque-là a réussi à remonter sur son cheval, en dépit de tous les avatars, de toutes les menaces, de toutes les destructions qu'elles viennent de la nature elle-même, ou bien de prédateurs dangereux. Et aujourd'hui, il faut savoir que le marché du vin mondial, c'est 250 milliards de dollars quand même. C'est une somme importante qui, on s'en doute, suscite des appétits, suscite une marchandisation du vin, et c'est ce qui se passe. Et c'est contre quoi luttent les gens d'ici, qui, pour la plupart, connaissent des jours assez sombres. Des gens comme Pascal Frissant, des vignerons comme Pascal Frissant, s'en sortent, parce que lui, il fait son vin complètement lui-même. Il le vinifie entièrement lui-même, et il s'en sort. C'est pas des grandes fortunes, mais il s'en sort. Mais il a face à lui, et pas seulement lui-même, il y a cette alliance du grand commerce et des lobbies anti-vin aussi. Et oui, les lobbies anti-vin, parce que au début des années 60, un homme en bonne santé buvait 100 litres de vin par an. Bon, eh ben aujourd'hui seulement 58 litres. Eh oui, ça affaiblit. On va être obligé de refaire le fameux geste qui sauve les viticulteurs. Donc il y a cette baisse de la consommation de vin. Mais il y a aussi que l'Union européenne détruit le caractère paysan et singulier du vin. Il y a l'Union européenne, le grand commerce et les lobbies. Elle s'emploie à casser sa légitimité culturelle pour préparer la place à un grand marché mondial de boissons alcoolisées au seul profit de quelques multinationales. Voyez le mépris qu'il y a dans ce texte de boissons alcoolisées, c'est-à-dire que le vin ne serait plus du vin. Le vin est en train de ne plus devenir du vin. Et des gens comme Pascal Frissant se battent contre cela. Le vin, évidemment, c'est de la nature, mais c'est aussi de la culture. C'est la culture et la nature qui se mêlent. Boire du vin, c'est boire du pays, comme on a aimé intituler ce reportage. Et ben oui, c'est du terroir. Et c'est quelque chose de sans doute très très conservateur. On va vous étonner par notre conservatisme aujourd'hui. Mais c'est notre sujet à la vôtre jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, midi rouge, on boit du pays.
Moi j'aime pas les vins chers, ceux qui se vendent aux enchères et partent en Amérique. Ceux qui font des manières entre la sole meunière et les fruits exotiques. Moi j'aime les vins canailles, ceux qui ont jamais de médaille au concours agricole. Qui sont nés sur la paille, qui ont les cheveux en bataille, ceux qui ont pas fait l'école. Celui qu'on boit comme ça sans faire de tralala, celui qui a pas d'étiquette, qui se prend pas au sérieux, qui en met pas plein les yeux, qui est tout nu sans liquette. Moi j'aime celui qui est bien rond, qui joue pas les barons, mais qui donne son soleil. Pas les grands millésimes, les vieux crus rarissimes, qui vous chauffent les oreilles. Ah, qui sont pas vulgaires, mais qui ont passé la guerre à l'abri dans les caves. Ceux qu'on peut pas toucher, qui doivent rester couchés, qui nous prennent pour des caves. Moi, c'est le rouge pas farouche, qui roule bien dans la bouche, ni trop mou, ni trop vert. Suis des bois et charbon, qui a pas le nez bourbon, mais fait chanter les vers.
Continue à nous ignorer en laissant sans réponse toutes les pétitions, toutes les suppliques que nous lui avons adressées. Mais encore, il se fout de nous. Monsieur le ministre Caillot a déclaré la semaine dernière « Tout ça, c'est du bâtard ». Que nous veulent-ils tous ces braillards? Ce que nous voulons, monsieur Caillot, ce que nous demandons, monsieur Clémenceau, c'est d'abord l'abrogation d'une loi scélérate qui favorise la fraude, qui autorise la vente d'un vin artificiel au détriment du vin naturel. Ce que nous exigeons, monsieur Clémenceau, c'est notre simple droit de vivre.
Ouais. 1907, le combat de tout un peuple, les vendanges de la colère, le soulèvement de tout un peuple, celui de cette région du Languedoc-Roussillon, contre les vins frelatés et pour défendre les vins naturels, pour défendre plus que des vins, mais pour défendre aussi un monde, une culture. Et bien sûr que cette révolte édifiante est un grand, des grands, grands moments de l'histoire populaire de notre pays, de l'histoire des révoltes et de la contestation dans notre pays, avec un écho formidable entre ce qu'on vient d'entendre dans ces extraits d'un film et ce qui se passe aujourd'hui, ici même, dans le Minervois, à La Connette, avec Pascal Frisson.
Ah ben, il faut que l'ail soit coupé fine. Bien fine, toi, alors on a des tomates.
Là, donc, sur le buffet, il y a un disque là, qui s'appelle 1907, La révolte des vignerons, l'histoire et le mythe.
C'est pathétique, c'est le mythe de l'armée qui est du côté du peuple. C'est ça, hein. on a essayé de... On a mythifié 1907, on en a fait un grand événement de la République. Et donc c'est pour ça que je suis à la fois admiratif de cette histoire, parce qu'on la connaît, j'ai eu un grand-père par alliance qui m'a raconté cette histoire, qui était soldat, on a beaucoup de témoignages, ça fait partie de notre histoire languedocienne. Mais en même temps, je trouve qu'on en rajoute un peu, et je vois pas les CRS, les gardes mobiles et l'armée d'aujourd'hui se fraterniser avec les ouvriers ou les paysans qui seraient en manifestation. Donc faut pas rêver sur cette armée qui serait républicaine. Et d'autre part, il y a un côté enterrement, puisque en 1907, les paysans du Languedoc ont obtenu que le vin soit défini comme une boisson naturelle, c'est-à-dire faite uniquement avec du raisin, sans sucrage, sans adjonction d'aucune manière, en tout cas pas trop. À l'époque, on faisait du vin avec du raisin sec, on faisait du vin avec du marc, qui était déjà pressé une fois. Eh bien, ces gens, par leur combat, ont obtenu que le vin ne soit pas une boisson industrielle, ne soit pas une boisson agroalimentaire, ne soit pas dans les mains de quelques coquins, de commerçants, mais soit une boisson populaire, paysanne, liée à la terre. Et c'est en 2007 qu'on a totalement dérégulé l'encadrement de la viticulture pour accepter que le vin puisse recevoir des copeaux de chêne pour être aromatisé. On est en train d'accepter dans la réglementation européenne le sucrage comme quelque chose de normal, alors qu'on aurait voulu qu'il soit exceptionnel. On accepte donc par là même la fabrication de 15 millions d'hectos de vin dans l'Europe, alors même qu'on est en surproduction. On accepte une irrigation massive, on accepte que la recherche ne fasse pas son boulot de recherche et que la recherche soit aux mains des marchands de pesticides, ce qui fait que nous sommes les premiers utilisateurs de pesticides dans l'agriculture. On est même devant les beaucerons. Aujourd'hui, c'est l'éradication de 1907, et on a eu beaucoup de difficultés à faire sortir ce débat fondamental. Le vin, aujourd'hui, s'y rentre dans l'agroalimentaire. Quel sera le rapport qu'il aura avec les consommateurs qui nous font confiance, à nous les vignerons, qui font confiance au vin. Je parle des consommateurs raisonnables, parce que sinon, on est plutôt dans la consommation, on est dans l'addiction, ça n'a rien à voir. Et à un moment donné, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de rupture de sens? Parce que les gens, quand ils boivent du vin, ils boivent des signes, ils boivent des souvenirs, ils boivent de la symbolique, ils boivent une substance qui va les aider à être en relation avec les autres, qui va peut-être lever quelques inhibitions aussi. Et là, on va faire une boisson enivrante. On va faire une boisson qu'on va désalcooliser, réalcooliser, aromatiser, désaromatiser. Et on va faire une sorte de vin conçu comme un soda.
C'est ce qu'on appelle le world wine, c'est ça, hein. C'est pour se placer dans le marché mondial, créer un vin qui sera bu par les gens qui écoutent de la world music, etc., oui. Des gens branchés, etc.
Oui, mais ça c'est le baratin des négociants. Et beaucoup de responsables professionnels, en manque d'imagination, ont repris strictement le baratin des négociants. Mais ici, à la maison, précisément, en ce moment, on a deux Américains cavistes qui viennent passer trois semaines chez nous pour vendanger, pour voir comment on fait le vin, pour voir ce que c'est qu'un terroir, ce que c'est qu'une élaboration de vin traditionnel, ce que c'est que le Languedoc profond. Et voilà, c'est ça la réalité, c'est que les Américains, ils adorent les vrais vins, ils adorent les vins de terroir, ils aiment les vins de paysans, ils aiment connaître les paysans qui sont derrière le vin, ils aiment se reconstruire les images, toutes les images, celles du paysage, celles de la vigne, celles de la vigneronne, du vigneron, celles du malodo quand on vendange, tout ce qui amène, tout ce qui se concentre dans un verre de vin, c'est extraordinaire. Et ils ont envie de découvrir ça, les Américains. Ce sont les négociants qui veulent des vins simplifiés, c'est plus facile à produire, c'est plus facile à assembler. Et puis, le rêve du négociant, c'est d'acheter au moins cher quelque part, peu importe où. Ça veut dire que, dans quelques années, on va mettre en concurrence la pauvreté des paysans argentins et des ouvriers agricoles, là-bas plutôt, des ouvriers agricoles argentins, et puis nous-mêmes, sur certains cépages, je pense au chardonnay, on va être en concurrence. Ils vont faire des vins intercontinentaux, et ça s'appellera chardonnay, ça aura une marque, il y aura une marque marquée dessus, une marque mémorisable, qui veut rien dire, mais qui serait mémorisable. On va rentrer dans un processus industriel de type laitier, de type yaourtier. Et donc là, bien sûr, c'est l'effacement total de la mémoire paysanne du vin. Si vous voulez faire ça, faites ça. Mais appelez ça autrement. Laissez-nous le mot vin. Ne nous usurpez pas ce que représente le mot vin pour tout le monde, pour plein de gens. On l'a construit avec les siècles, ce mot. On est allé très très loin dans notre travail de vigneron pour faire des belles choses. Les consommateurs ont été très loin pour mieux connaître, pour être raisonnable dans sa consommation et être éclairé. Et c'est tout ça le vin, et bon sang, bonsoir. C'est une usurpation, vraiment, que d'appeler vin les substances qu'ils veulent fabriquer. Il y a usurpation.
Ninette, ma Ninette, viens donc vendanger. Prends ta petite serpette, ton gentil panier. Vois le soleil brille sous les échalas. Pardon, ma gentille, ne retardons pas. L'envie me démange d'aller en vendange, d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier, dans ton petit panier. Ninette, ma Ninette, vois ce beau raisin. Oh, dit la fillette, y en a plein la main. Que la grappe est belle, que les grains sont noirs. Le bon vin, dit-elle, coulera du pressoir. Oh, oh, l'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier, dans ton petit panier. Comme Adam et Ève, car il faisait chaud, tous deux on enlève culotte caraco. Hélas, un gendarme nous avait suivis, et malgré nos larmes, pris tous nos habits. Oui, oh, l'envie me démange d'aller en vendange, et de grappillonner dans ton petit panier versé.
Donc voilà, on part tous là, mais dans le village d'ailleurs, on part tous à peu près à la même heure. C'est ça qui est assez drôle, qui m'a toujours étonné quand je suis arrivé dans les villages de Languedocien et Catalan. C'est en fait, il y a un métronome. On embauche tous à la même heure, on vient tous à la même heure. Et voilà.
Parce que là, c'est l'activité principale ici de la Caudette.
Bon, c'est l'activité visible. L'activité invisible, c'est la retraite. Parce qu'il y a plus de retraités que de vignerons, il y a plus de hérémistes que de vignerons. Et si on ajoute l'ensemble des hérémistes, chômeurs, retraités, on arrive à 80% de la population. Quoi. C'est vraiment un problème dans nos villages, il n'y a pas d'activité. Et la viticulture est en crise, c'est rien de le dire. On est quelques-uns encore à tenir le coup, mais... on tient le coup, on est 4 ou 5 à tenir à peu près le coup, et la majorité à subir le coup. Alors, la conséquence de ça, par exemple, c'est que tout le monde passe à la machine progressivement. Et non, il y a 10 ans de ça, tiens, la jeune dame, la jolie dame là qui passe, là, yep, allez où ? Ils avaient une équipe de vendangeurs, comme la mienne maintenant, quoi, une quinzaine de personnes. Et maintenant, ils ont tout arraché les vignes, ils se font la main, ils font la machine.
Alors c'est le moment heureux, attendu et béni des vendanges et béni des dieux, je disais, le vin aussi vieux que le monde, mais c'est presque, le vin a été domestiqué par les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens, les Hébreux, les Phéniciens, la culture de la vigne s'est épanouie sur les rives de la Méditerranée, qui est la matrice de la civilisation du vin, les Grecs, et qui sont les initiateurs de la viticulture en Europe méditerranéenne, furent relayés dans leur œuvre civilisatrice par les Romains, la Sicile, l'Italie du Sud, d'abord, etc., etc. Et vous savez que c'est les Gaulois qui ont inventé le tonneau, qui supplanta l'amphore romaine. Enfin, une histoire qui vient de loin, et ce qu'on retrouve, comme le dit Pascal Frissant, dans un verre, il y a tout ça. Dans un verre de vin, il y a le ciel, il y a la terre, enfin, il y a toute cette histoire. Et puis, voilà que tout cela est menacé. C'est pas la première fois que c'est menacé, mais là, il y a vraiment une menace terrible, parce que des gens comme Pascal Frissant voudraient que l'appât du vin, eh ben, ce serait une sorte de boisson qu'on pourrait aromatiser, dont on pourrait enlever l'alcool, on pourrait fermenter en Europe des moûts venus d'Argentine, importer des jus de raisin pour fabriquer des vins suédois, par exemple, mélanger les continents, mettre les misères en concurrence. Afin, parce qu'il y a ça évidemment dans la mondialisation, la fameuse mondialisation, c'est souvent ça, c'est mettre des misères en concurrence et profiter de l'exploitation des travailleurs ou des ouvriers agricoles à travers la planète. Alors évidemment ça a l'air d'être moderne, progressiste, parce que c'est sans frontières, c'est le monde, etc. Et puis nous on serait là accrochés, agrippés à notre terroir avec quelque chose d'un petit peu réac, parce qu'on bouge pas quoi. Hein, c'est dans cette histoire de... Il se pourrait bien que le progrès ne soit pas, en l'occurrence, du côté que l'on suppose.
Alors là, il y a toute l'équipe des vendangeurs qui monte dans le panier à salade.
Nous, là, on a un Gallois. Là, on a un Australien, on a un Américain. Là, on est en train de faire la 5e internationale.
Ouais. Mais tout ça pour ne pas faire du World Wine, on est d'accord.
Hein. Ah oui, ça n'a rien à voir. Nous sommes des internationalistes qui ne voulons pas standardiser le vin dans le cadre d'une mondialisation qui n'est pas du tout un commerce à visage humain, qui relève de la déraison, qui ne relève pas de la raison humaine. Nous, on est les ambassadeurs non seulement du vin en tant que produit culturel, mais aussi du monde paysan, du monde de vignerons. Vous le voyez ici, il n'y a que des petites parcelles, hein, ce territoire très accidenté. On mange ensemble, on se parle, il n'y a pas systématiquement la machine à vendanger. La question c'est comment les gens vont accueillir notre vin, comment ils vont le recevoir, comment ils auront envie de l'aimer. Pas de l'aimer simplement au niveau du goût, mais dans ce qu'il représente. Et il y a, c'est ça le vin. On n'achète pas du vin simplement pour un goût qu'il aurait. On achète un vin pour autre chose. Et nous, notre seule richesse, on n'est pas les riches châtelains bordelais. Nous, notre seule richesse, notre paysage, notre culture paysanne. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en scène, je dirais, d'une façon... c'est pas manipulatoire, hein, de dire mettre en scène. On coupe pas les arbres systématiquement, on met du compost dans nos vignes, on est très attentif à la vie des sols, suivant les préceptes de l'excellent Claude Bourignon. Évidemment, tout ça fait confiance. Tout ça correspond à une demande sociale. Parce que le négociant, lui, c'est le marchand du temple. Ce qui compte, c'est de vendre. Mais lui, ce qu'il enregistre, c'est que s'il fait un vin qui a un goût de yaourt, il va le vendre. Et lui, il dit, ben voilà, la demande est dans le goût de yaourt. Et nous, on dit, il y a une demande sociale. Et la demande sociale, dans le monde entier, sur la planète entière, c'est le naturel, le respectueux, le pacte implicite avec le respect de la nature. C'est le côté quasi chamanique, puisque là, je me moque de moi-même dans mon propos, mais... Notre capacité à planter des vignes dans des espaces comme celui-ci, aussi hostiles, ça aussi, ça donne de l'affection pour le produit que l'on fait. Les gens, ils ne demandent pas un goût qui serait affiché comme un goût de McDonald's, vous savez. Et nous, c'est le contraire de ça.
Vous voulez connaître pourquoi les Américains viennent ici pour travailler les vendanges?
Ouais, pourquoi tu viens faire les vendanges alors?
Je travaille à un magasin de vin à Washington, D.C. Et là, j'achète du vin français comme du vin d'Alsace, du vin Beaujolais. Et les Américains aiment bien le vin français. Ouais.
Et pourtant, il y a une grosse production qu'on appelle dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire États-Unis, Chili,
ouais,
etc.
Je crois que les Américains préfèrent le vin français.
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires ici.
Ouais. Il y a beaucoup d'histoires et le vin français est le mieux. Ah.
Alors ça, c'est la Syrah. La Syrah est assez récente ici. C'est ce qu'on appelle, on appelait ça dans le temps des cépages améliorateurs. Elle a 25 ans, cette Syrah, elle n'a pas plus. Elle n'a que 25 ans. Parce qu'on nous a expliqué que c'était mieux, qu'il y avait plus de goût, plus de parfum là-dedans. C'est vrai, c'est formidable. Mais
c'était déjà dans un processus qualitatif.
Ah oui, absolument. C'était dans le processus de faire du Minervois. Le Minervois est une appellation d'origine contrôlée, même qu'elle a été déclarée AOC qu'en 1985, mais la démarche est beaucoup plus ancienne. Et ici, il y a toujours eu le souci de faire du bon vin, parce que tout le monde a compris dans notre village et dans les villages autour que c'était pas avec la quantité qu'on allait s'en sortir, parce que nous, on a des terres pauvres. Donc, on a bien compris que c'était avec la qualité. Et on a fait confiance à ce cépage, qui est le grand cépage des côtes rôties. C'est là-bas, hein, c'est là-bas les rois de la Syrah, c'est les côtes rôties. Alors, le cépage a été repris sous le nom de Shiraz, en Afrique du Sud et en Australie. Shiraz étant une ville de Perse, dont certains pensent donc que le cépage serait sinon originaire, en tout cas, aurait un petit cousinage avec cette région. Voilà. Donc, si vous trouvez du Shiraz sur une table, ce sera de la Syrah faite en Australie ou en Afrique du Sud. Mais ça n'a pas le même goût du tout que nous. C'est pas le même esprit, c'est pas le même goût, c'est pas la même logique de production. Là, on a 25 hecto-hectares maximum. Hein, c'est très très faible. Alors voilà, c'est le problème aussi, parce que c'est formidable comme goût. C'est épicé, ça sauvageonne. Mais en même temps, le coût de production est élevé. Donc, comment expliquer aux consommateurs que si on vend cher, c'est pas par pédanterie ou par souci de gagner de l'argent, mais uniquement parce que nos coûts de production sont élevés. Voilà, il faut le justifier, ça, c'est pas simple.
La mise en bouteille, chanson à boire, 1937. Le cours du si vite, Jean le tonnelier. Je m'en vais travailler comme mon métier. Au château de Bonneduite, je vais mettre en train 20 barriques de vin livrées ce matin. Qu'est la mise en bouteille au château, du bon jus de nos treilles de Bordeaux. Pour respecter les tonneaux, faut avoir l'âme d'un héros. Qu'est la mise en bouteille au château. Où va donc le père Gustave et Louis le chauffeur, ses soubrettes sans fleurs et le vieux facteur. Nous descendons à la cave, jeter un regard, écouter le nectar de ce vieux renard. Qu'est la mise en bouteille au château, du bon jus de nos treilles de Bordeaux. Mais le bon vin quand il fait chaud, fait bouillonner du chapeau. Qu'est la mise en bouteille au château. La bijoux, c'est fantastique, qui ne sont point remontés. Des châtelains, je vais aller voir ce qui s'est passé. Mais derrière des barriques, quels sont ces soupirs? Ces baisers, ces gros rires, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a de la mise en bouteille au château, du bon jus de nos treilles de Bordeaux. Et je crois que tous les gars du hameau ont dû se tromper de goulot. Qu'il y a de la mise en bouteille au château.
Le vin de terroir menacé par la mondialisation. Il faut rappeler quand même que la filière viticole en France, c'est un domaine économique important, 144 000 exploitations, 850 caves coopératives, 1400 entreprises de négoce, 75 000 salariés directs et 300 000 salariés indirects. Tout ça, c'est pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros qui rapporte à l'État 3,3 milliards d'euros en impôts indirects. C'est donc pas négligeable. Et on comprend bien que les négociants, comme dit Pascal, ils sont dans leur rôle, ils sont dans leur boulot, faire le maximum de bénéfices, maximum de profits, sauf que là, il s'agit d'un patrimoine, il s'agit d'une culture, il s'agit de beaucoup plus que de boire et de s'envoyer un petit peu en l'air, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est une vieille polémique, c'est une vieille confrontation, c'est pour ça qu'on avait inventé les AOC, l'appellation d'origine contrôlée, sauf que aujourd'hui, c'est plus très précis cette histoire-là, hein. Ça correspond pas forcément à d'authentiques terroirs avec d'authentiques vignerons qui travaillent authentiquement, au moins aussi authentiquement que Pascal Frissant.
Alors là, on est dans le chai, tu dis la cave ou le chai?
La cave de vinification, quoi. la cave de vinification.
C'est quand même une petite cathédrale du vin, quoi.
Voilà, c'est une petite cathédrale, d'abord qui est belle parce que la façade est de pierre, donc déjà ça donne une atmosphère. Il y a la cuve numéro 1 qui a un peu débordé pendant la fermentation, on ne l'a pas nettoyée encore. Alors, il y a ces larmes de sang, là, ces sang de la terre là, qui coulent le long. Je suis très en colère d'ailleurs parce que j'aime pas qu'on gaspille le jus de raisin parce que c'était en cours de fermentation, c'est pas du vin encore. Hein. Ça déborde, voilà, là on a trop rempli, ça débordé un petit peu. On n'a pas perdu grand chose, mais bon, c'est vexant. Et puis après on a cette plateforme de bois là-haut, cette mezzanine de travail sur lequel on pose l'égrappoir qui va séparer les petits raisins de leur rafle. Parce qu'on va travailler que sur les raisins, on veut pas de la rafle qui ne nous apporte rien, en tout cas ici, de ce qu'on cherche. Et puis il y a une table de tri qu'on n'utilise pas cette année parce que les raisins sont magnifiques, c'est une qualité exceptionnelle. Mais on a possibilité de trier les raisins à l'entrée de façon à éliminer ceux qui sont pas jolis. Puis voilà, on a nos comportes, on a tout un tas d'instruments barbares comme des tuyauteries et une pompe pour pousser la vendange.
Donc ça veut dire que quand même, faire son vin, ça demande un investissement et ça demande du matériel.
Bien sûr que...
Comme les coopératives, quoi, c'est ça?
Ben oui, c'est pour ça que les gens ils sont mis en copé, parce que à la création des coopératives, quand il y avait un partage dans une famille, c'était très difficile, s'ils étaient deux à rester, à ce que l'un des deux rachète les barriques, les cuves, les foudres, etc. Et le prix à l'époque de la création des coopératives, le prix du vin était très bas. Et la tonnellerie et la futaille et les cuveries, tout ça était bien cher. Et donc c'était quand même beaucoup plus intelligent de se grouper ensemble dans un outil de production que d'être chacun dans son coin. Et puis quand même au début des coopératives, il y avait un projet de société. Il y avait, quand on regarde le statut de coopérative de Maraussan, l'objectif c'était de mettre en commun aujourd'hui le raisin et demain les outils de production. C'est-à-dire qu'on commençait par l'outil de transformation et l'outil de commercialisation qui restait à créer, mais on voulait absolument aller vers la mise en commun des moyens de production. C'était un projet libertaire, hein. C'était un projet socialiste libertaire.
On est dans le milieu rouge quand même.
Il était même plus que rouge, puisque la CGT à l'époque était anarcho-syndicaliste. La CGT est passée au PC qu'après le congrès de Tours. Alors ça, c'est le vin qui est... C'est du mou de raisin, bon, qui a été récolté il y a 15 jours. Du raisin blanc, de plusieurs cépages. Et il finit de fermenter doucement, il a encore du sucre, là.
Fameux, hein.
Quand les mélanges tombent plus tardivement, ça se mange avec châtaignes.
Mais... Oui, c'est ça, oui. Ah, tu veux nous faire goûter autre chose, c'est ça?
Là, on n'a pas trop le droit de le faire, mais bon, tant pis, hein.
Ouais, personne ne le saura.
Personne ne le saura, non. Il y a quand même des traditions dans ce pays. Et une d'elles, c'est de faire des grenaches surmaturées. C'est-à-dire on laisse mûrir très longtemps les grenaches noires. Et on fait des vins qui se rapprochent un peu du Mauri. Moi, j'adore le Mauri. C'est mon vin d'apéritif de référence, Mauri Bagnouls. Et donc là, c'est avec du grenache noir. Donc... voir si je peux en attraper, ce qui n'est pas sûr du tout. Bon, écoute, ce sera avec parcimonie.
Merci.
Espace Muscat, c'est du grenache. Celui-ci est jeune, hein, il est de l'année dernière. Je vais le mettre dans une barrique et il va durer, on va le laisser pendant 2-3 ans, peut-être dehors d'ailleurs. J'en ai dehors, des barriques. C'est pour la maison. Mm-hmm. C'est des vins pour la maison et quand il y a des clients qui viennent, s'ils sont sympas, on en boit un coup. Après, c'est pas pour vendre. Il faut savoir faire les choses qu'on ne vend pas. Sinon, on se vendra nous-mêmes un jour.
Mais après la guerre 14, les choses ont beaucoup changé parce que la guerre, c'était une hémorragie terrible. C'est les hommes qui sont morts, c'est aussi des gens traumatisés, des gens blessés, c'est une vie intellectuelle brisée, c'est des projets, une utopie brisée. Je me souviens pour les 50 ans de la coopérative de Ribot dans la Corbière, j'avais lu le discours de Jean Jaurès, discours inaugural de Jean Jaurès à Maraussan, 1er mai 1905, je crois. J'ai eu des gars qui étaient totalement pris d'émotion. J'en ai même eu un, et je me souviens, Poporouk, c'est on l'appelait. Il y a toujours du monde. Et je me souviens, il avait la larme à l'œil, Popo, parce que c'était toutes ses valeurs. C'était les valeurs de son papette qui s'était tellement bagarré pour la séparation de l'Église et de l'État, et pour la création des mutuelles, les premières mutuelles, pour assurer le cheval, pour assurer le hangar et la maison. Il y avait derrière la création d'une coopérative, il y avait souvent toute cette histoire de lutte, d'engagement, de référence morale ou politique ou idéologique. Et on a du mal aujourd'hui, quand on voit les coopératives, à imaginer qu'il y avait tout ça. Mais c'est de ça que la coopération est née. Et c'est vrai que la guerre 14 a été un grand coup d'arrêt, qu'après la guerre 14, c'était plutôt un enjeu de pouvoir, la coopération. Faire une coopérative, maîtriser une coopérative, c'était en gros tenir le village d'un point de vue électoral. Donc avec une grande compétition entre PC et PS, qui n'a pas empêché quelques gens éclairés de droite à faire des coopératives. Je citais, je crois, de Comines, dans la Corbière aussi. Mais c'était en général assez lié au socialisme local ou au Parti communiste, aux endroits où il était important. C'était aussi être au coude à coude quand c'était pour les manifester, exiger du gouvernement une protection, une mesure qui fasse remonter le prix, une mesure qui garantisse un revenu. C'est toujours un petit peu ça, mais aujourd'hui, quand même, il y a une érosion, il y a un éclatement total. Et le souci des collègues qui sont à la tête des outils coopératifs, leur souci, c'est de pas être archaïque, c'est pas être en décalage avec la modernité. En fait, ils ont pas la capacité aujourd'hui à se démarquer du modèle, que ce soit en termes de vin, de pratique technologique, de marketing. Et ça, c'est, je crois, le grand échec de la coopération, c'est de pas arriver à, dans des lois qu'on ne peut pas changer, dans les lois économiques qu'on ne peut pas changer pour l'instant, et qu'on changera peut-être un jour. C'est de ne pas être capable d'avoir une résistance et une identité. D'ailleurs, pour la petite histoire, mes copains de la coopération, des fois je les taquine, mais si sur une étiquette on voit Prince de Polignac, on est sûr que c'est la coopérative de Cognac qui fait le Cognac. Et si à compte de quelque chose, c'est encore une coopérative. Et au lieu de continuer l'œuvre de la Révolution française, qui serait donc d'être fier de faire ensemble les choses, et il revient avant, il s'approprie les titres de noblesse comme si ça pouvait anoblir leur travail, alors que leur travail est anobli par le fait qu'ils fassent ensemble.
Mais il y a des coopératives qui s'inscrivent différemment, j'imagine, dans le commerce.
Oui, absolument. Ah oui, il y a des coopératives dans lesquelles il y a des équipes d'hommes peut-être plus sensibles, plus engagées ou plus utopiques.
Plus sensibles à la valeur du vin, non?
À la valeur, voilà.
À l'essence première du vin.
Ouais, pour qui le vin, c'est vraiment du vin, quoi. C'est pas une matière première qu'on brasse comme des patates. Dans le Languedoc, il y a Roquebrun, il y a Complon dans l'Aulne. Bon, il y en a beaucoup. Je pourrais en citer comme ça, en réfléchissant un petit peu, une vingtaine, qui sont des outils extraordinaires, où il y a des talents, où les talents ont été fixés, et où les vignerons n'ont pas envie de partir en cas particulier. Ça existe, mais c'est curieux, c'est pas le modèle qui domine. Le modèle qui domine, c'est regroupez-vous, concentrez-vous, abandonnez vos coopératives, venez dans la coopérative voisine. Si on fait plus d'hecto, ça nous coûtera moins cher. On va faire du worldwide, on va faire du vin pour le monde entier, on va foutre des coupeaux, on va foutre je sais pas quoi, laissez faire les chimistes. Ne vous occupez plus de rien, faites des raisins, produisez à pas cher. Et l'autre jour, à la commission technique du Minervois, on a eu un type qui nous expliquait comment c'était en Nouvelle-Zélande. Et le dernier chic pour exemple de dirigeant de la coopération, c'est d'avoir un œnologue australien. Ça, c'est un chic terrible. C'est quelque chose d'impensable. Voilà, c'est que les lucioles sont attirées par la lumière, mais ça débouche sur rien, cette histoire. Ça débouche sur rien.
C'est un reportage d'Antoine Chao. Merci à Alain Rénal, Pascal Frissant, Jean Ramad, Patrick Roux. À lire Les Vendanges de la Colère, Midi Viticole 1907-2007 d'Alain Rénal et de Gérard Le Puil aux éditions Au Diable Vauvert, ainsi que Menaces sur la civilisation du vin aux éditions Aden. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, puis là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Réalisation Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry. Chef du répondeur, Agnès Lebotte. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.